Aujourd'hui donc, nous recevons Madame Françoise Parot. Madame Françoise Parot est psychologue. Elle est maître de conférence d'histoire de la psychologie à l'Université René Descartes, Paris 5, et chercheur associé de l'équipe recherche épistémologique et historique sur les sciences exactes et les institutions scientifiques, qui dépend donc de Paris 7 et du CNRS. Elle est spécialiste d'histoire de la psychologie. Elle a tout d'abord effectué des recherches sur les relations temporelles dans le langage de l'adulte et a notamment étudié Chomsky et Skinner. Elle a travaillé ensuite sur l'histoire de la représentation contemporaine de l'esprit et notamment sur l'étude de la construction des problématiques contemporaines de la psychologie. Elle s'intéresse actuellement à l'activité onirique, à la croyance dans les pouvoirs de l'esprit et sur les représentations qu'elle suggère se font de leur identité. Elle est membre de la commission de littérature scientifique et technique du Centre national du livre. Elle est membre de la Société française d'histoire des sciences. Elle est membre du comité scientifique de plusieurs revues, dont la revue d'histoire des sciences humaines, qui fait paraître pour son numéro d'avril 2000 une conférence qui peut vous intéresser puisque vous êtes là sur les origines de la psychologie européenne du XVIe au XIXe siècle. Elle a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées et elle est l'auteur d'articles dans un dictionnaire de la psychologie qui est paru en 1990 au PUF et qui a été réédité en 1999. Elle est l'auteur de trois ouvrages, L'homme qui rêve aux presses universitaires de France en 1995, Introduction à la psychologie, histoire et méthode aux presses universitaires en 1998, Existe-t-il une nature humaine, psychologie historique objective comparative aux éditions Saint-Elabo, collection Les pêcheurs de pensée en rond en 2000. Françoise Parot, donc, je vous laisse la parole pour 50 minutes, après quoi 20 minutes de débat pourront suivre. Merci.
Merci Gabriel. Je voudrais aussi remercier Michaud, je ne sais pas où il est, mais il ne doit pas être très loin. Je voudrais le remercier de m'avoir choisi, comme nous le faisons tous, sans doute ici, de m'avoir donc offert une tribune pour parler de la psychologie, une tribune que d'autres peut-être vont m'envier. C'est l'occasion d'une première précaution oratoire. Je ne vais parler comme mon nom, c'est une évidence, mais ça va mieux quand je le dis. Yves Michaud a fait le choix parce qu'il avait le choix. Parmi les psychologues, nombreux sont ceux qui ont un avis sur le présent et l'avenir de la psychologie. Il n'y a pas si longtemps, Olivier Houdet a brillamment, comme d'habitude, énoncé à cette place que l'avenir de la psychologie, c'est l'imagerie cérébrale. Je crains bien qu'il ait raison. Mais si l'avenir de la psychologie, c'est ça, eh bien, elle est comme nous autres mortels. Son avenir est à sa disparition. Nous voilà donc déjà au cœur un peu lugubre de cette série de conférences. Existe-t-il encore des sciences humaines, cœur nostalgique, préparé au deuil, les sciences humaines sentent le sapin. Je ne veux pas manquer de remercier aussi Yves Michaud, que je ne vois toujours pas, mais il doit quand même être là, de m'avoir offert un cadeau un peu empoisonné, disons de m'avoir exposé à quelques dangers, mais ça, ça fait aimer la vie. Parler de la psychologie, c'est se mettre à découvert sur un champ de tir. C'est être sommé de répondre à des questions qui reviennent sans cesse. Par exemple, qu'est-ce que c'est que la psychologie? N'y a-t-il qu'une seule psychologie? Quels sont, ou devraient être, les rapports de la psychologie avec la psychanalyse? J'ai choisi de ne pas traiter ce genre de questions, de les laisser en suspens. J'ai choisi aussi d'utiliser sciemment un terme vague et dégradé, « psy », pour désigner l'ensemble un peu flou de ceux qui s'occupent d'être des docteurs de l'âme, de la psyché, de la souffrance psychique, quelques théories qu'on en ait, pour désigner donc les praticiens de la psychologie, les cliniciens. Par opposition, je parlerai des chercheurs en psychologie pour désigner ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font des recherches en laboratoire. On les qualifiera même quelquefois de scientifiques pour en dire long sur les autres. Mais l'exercice auquel nous sommes quelques-uns à être conviés comporte une autre difficulté plus profonde, évidemment épistémologique, qu'il va falloir, sur la base d'une pratique d'histoire des sciences, singulièrement d'histoire des sciences humaines, s'efforcer de déterminer des lignes directrices, ici une dynamique de la psychologie contemporaine, tenter de discerner des signes d'espoir au chevet de qui serait mourante, et pourtant, une discipline aussi jeune, quelle perte! Foucault avait la dent dure sur cette jeunesse éternelle de la psychologie. En 1957, il écrivait « Depuis le temps que la psychologie est une science jeune, elle aurait eu le temps de prendre un peu d'âge. Je veux bien que l'indulgence sénile des psychologues en état d'enfance s'amuse et consente que jeunesse se passe, mais voilà que le temps de la jeunesse a passé, sans que jeunesse ait jamais passé. Propos sinistre et désespérant, et s'il n'y a plus d'espoir ou si je n'en vois pas, alors qu'il reste des psychologues. Mon sort sur le champ de tir est joué. Car c'est par là qu'il faut commencer. Jean-Édouard Maurer, qui en 57 entreprenait un travaux du travail scientifique en France, s'excusait d'y inclure la psychologie avec un argument décisif. Après tout, il y a des psychologues et qui cherchent. De fait, il y a des psychologues et vraiment beaucoup. Mais il n'est pas assuré que tous cherchent. Certains d'entre eux sont payés par la République pour chercher. Ce sont les chercheurs en psychologie. Ils vivent dans des laboratoires. Du CNRS, de l'INSERM quelquefois. Là, ils isolent dans une salle un individu appelé sujet, le plus souvent humain. Ils le soumettent à des tâches aussi saugrenues que calibrées, recueillent et mesurent méticuleusement ses activités. Ceux-là sont en général peu bavards. Ils n'échangent pas avec leur sujet le moindre mot, sauf ceux de la consigne expérimentale, très standardisée, égalitariste en somme, la même pour tous. Un homme en vaut un autre dans le conte, à la fin. Parce que chez ces psychologues-là, on parle peu, on compte. On en tire des conclusions tout à fait générales et même universelles sur la mémorisation des mots, sur la vision des couleurs, sur la résolution des problèmes, etc. Et cela chez l'adulte, chez l'enfant, chez le chimpanzé. Sans crainte de découvrir ce qu'en fait on sait quelquefois déjà. Comme le remarquait Michel Foucault encore, et de la façon cinglante qu'on lui connaissait, devant une expérience qui voulait démontrer que les enfants mentent pour éviter les punitions. Il y a de ces maniaques de l'indiscrétion qui, pour regarder à travers une porte vitrée, se penchent au trou de la serrure. Ces psychologues, qui se qualifient d'un scientifique appuyé, fondent leurs travaux sur la conviction que la vérité de l'homme est épuisée par son être naturel, qu'il leur faut étudier avec le dernier soin des capacités décrétées naturelles de l'homme en tant que membre de l'espèce homo pour en faire la psychologie. Ils inscrivent leurs travaux expérimentaux dans une longue tradition au sein de laquelle on trouve Piaget aussi bien que Skinner, le behavioriste radical de l'après-guerre, ou Chomsky. Bien que les conceptions de ces grands maîtres aient souvent été présentées comme tout à fait différentes, inconciliables, elles partagent toute la conviction que l'être humain peut être étudié isolément de tout environnement humain et que ses fonctions psychologiques, comme le langage, la mémoire, la perception, sont universellement les mêmes chez tous les humains. Ce qui menait ces grands théoriciens, très cohérents, à en conclure que la psychologie n'est qu'un moment ou qu'une branche de la biologie. Lucidité que n'eurent pas tous leurs épigones, et dont ils ne mesurèrent pas toujours les conséquences. Chacun de ceux-là, à sa manière, a ouvert la porte à la mort de la psychologie, puisque le conditionnement skinnerien repose sur un mécanisme neurologique de mise en rapport d'une stimulation sensorielle avec une réponse motrice, puisque les capacités d'assimilation et d'accommodation piagétiennes sont des caractéristiques du vivant, puisque les compétences langagières reposent, selon Chomsky, sur un noyau inné, il fallait bien qu'à un moment ou un autre du processus de recherche, les biologistes passent à l'acte, entrent dans la chair et nous en disent le fin mot. Les neurosciences sont nées là, dans cet abandon à la nature. Et c'est là qu'a commencé le processus mortifère de la psychologie de laboratoire. C'est là qu'elle s'est exposée à sa dévoration par le bas, par la réduction. Car si la causalité psychologique est d'ordre physique, biologique, voilà que se profile la fin de l'existence de cette science humaine. L'imagerie cérébrale permet de faire voir les opérations mentales dont les psychologues de laboratoire construisent l'hypothèse dans le silence avec leur sujet. Donc on ne peut plus douter puisqu'on voit que ces opérations ont bien lieu. Reste à en déterminer non la causalité ou l'explication psychique, mais la causalité ou l'explication neurologique, neurophysiologique. Les chercheurs en psychologie doivent alors se cantonner, mais peut-être l'ont-ils toujours fait, de préparer le travail des neurosciences. Ils sont en amont du travail et s'évaporent au moment décisif, celui qui consiste à rendre raison des phénomènes. Ils n'administrent aucune vérité scientifique, le fin mot est prononcé par d'autres, autrement plus armés pour la vérité. D'une certaine façon, cette soumission de la psychologie aux sciences naturelles pourrait n'être qu'un drame local, un fait divers régional, si les discours de la psychologie restaient sans effet sur ceux qui les entendent, c'est-à-dire nous, les humains, les gens. Mais avec ce discours naturaliste, la psychologie nous naturalise et même nous déshumanise, puisqu'elle se passe fort bien de ce qui fait l'humain dans l'homme. La subjectivité, l'histoire, le vécu, le sens, les autres, l'éprouver, comme disent les phénoménologues. Là, un point central qui devrait retenir l'attention, c'est que les sciences humaines doivent endosser une responsabilité éthique que n'ont pas à endosser les sciences de la nature. Quand Copernic affirme l'héliocentrisme, il ne fait pas tourner la Terre autour du Soleil. Mais quand Freud énonce qu'il y a de l'inconscient, comment être sûr qu'il ne nous l'offre pas ? Pour un bon siècle. Comment être sûr qu'en affirmant que nos enfants apprennent en passant par des stades cognitifs de plus en plus logiques, les piagétiens et les pédagogues qui les ont suivis n'en ont pas fait des machines à calculer. Autrement dit, comment dédouaner les sciences humaines de leur influence sur le réel qu'elles étudient ? Est-ce qu'en partie, elles ne créent pas ce réel de toutes pièces ? Tous les discours s'adressent aux humains. Les discours sur les humains aussi. Les humains entendent les discours sur eux-mêmes. Comment penser que ces discours, énoncés qui plus est avec l'autorité certificatrice que confère maintenant la science, restent sans effet ? Qui se préoccupe des effets de ces discours naturalisants ? Qui ? D'autres psychologues. D'un genre différent, eux aussi, beaucoup plus nombreux. Qui recueille dans la pratique les victimes que nous sommes de ces discours déshumanisants. Ceux-là, ce sont les psychologues cliniciens, les psys. Ces psys, il y en a dehors, dans certains immeubles, dans les écoles, dans les crèches, au resto du cœur, dans les hôpitaux, au chevet des mourants, des accouchés, des à-peine-nés, des victimes d'attentats et même des animaux domestiques. Ceux-là cherchent aussi, mais autre chose. Ils cherchent à aider, à faire passer le mal de vivre, d'aimer, de mourir, avec des paroles de réconfort ou d'encouragement, et en s'ouvrant aux paroles des autres, en les écoutant même quelquefois avec tant de patience qu'ils s'assoupissent. Ceux-là font prendre des bains de mots qui disent la souffrance psychique qui la balbutie. Selon la formule d'Heidegger, ils plongent dans le sens. Ils ont une fonction, un devoir. Ils doivent donner un sens à tous ces mots, à cette souffrance, c'est-à-dire l'intégrer dans une histoire personnelle ou collective, calmer, en humanisant, en faisant sortir de l'isolement à l'intérieur. Ils doivent influencer avec des mots, pas seulement des mots d'ailleurs, avec des rites attendus de chacun, faits de gestes, de regards, de postures. Cette psychologie-là est une pratique rituelle. Et efficace, forcément efficace, comme les autres. Ce serait d'ailleurs un beau thème d'avenir pour une psychologie ressuscitée. Par quel mécanisme ou processus psychologique, purement psychologique, les discours et les rites forgent-ils les façons de se conduire ? De l'homme en général, des hommes, ces psys de la rue, doivent, pour bien faire, avoir une grande expérience, avoir le sens de l'humain. C'est ce qu'on attend d'eux. Ils doivent en avoir vu de toutes les couleurs de l'humain, en avoir entendu des vertes et des pas mûres pour ne pas s'effrayer et lâcher qui il mène. Pour juger d'un homme, disait Montaigne, il faut suivre longuement et curieusement sa trace. Or, il n'y a rien de plus divers, de plus complexe que les hommes, et la traque est pleine de surprises. Comment acquérir ce savoir de l'humain ? Descartes, dans les méditations, y insistait, pas de science, si Dieu est un malin génie et s'amuse à changer le monde tous les matins. Si la nature change de loi, dès que Dieu fait un caprice, les physiciens n'énonceront aucune vérité universelle. Eh bien, avec l'homme. Malheureusement, pour les psychologues, Dieu y a mis de la malice. Car d'une époque à l'autre, d'un lieu à l'autre, les hommes ont changé, changent sous nos yeux. Autrement dit, pas de nature humaine aux lois immuables. Comme le disait Elias Vernon ou Ignace Meyerson, nous n'avons pas une mémoire, une conscience ou un inconscient, une intelligence, comme nous avons un estomac, un cœur ou une jambe, ce qui est proprement humain. Avec quoi les praticiens doivent faire et que les psychologues de laboratoire oublient, c'est cette faculté de symbolisation perpétuelle qui double le monde des choses, le monde réel, avec des mots et du symbolique. Et il est peut-être vain d'en chercher les caractéristiques naturelles, parce que précisément ce qui est humain dans l'homme, la culture, l'esprit, la symbolisation, ce n'est pas naturel. Des praticiens de l'humain, donc, en nombre, livrés un peu à eux-mêmes, formés de briques et de brocs. Et en France, pas d'institution de recherche officielle pour eux, pas de poste au CNRS ou à l'INSERM. Cette pratique dans le monde réel ne repose sur aucune formation théorique garantie, certifiée, sur aucun enseignement d'anthropologie au sens général qu'ancien, ou de sociologie, d'histoire. L'humain, ici, ça ne s'enseigne pas. Cette pratique des psys reste à l'écart de la recherche scientifique et elle ne parvient même pas à imposer à ceux qui font officiellement de la recherche scientifique ces exigences précises, celles qui naissent de la pratique, ceux-là donc qui font dans le matériau humain, qui le malaxe et lui donne forme vivable avec des mots, ne font de recherche que sur le tas. Ce sont en quelque sorte des artisans. Voilà un élément d'état des lieux. Si l'on veut qu'un de nos étudiants en psychologie devienne un jour un spécialiste en humain, il ne lui faut que 5 ans d'études, non, pas plus, 5 ans seulement, avec un stage pas forcément profitable, et puis on lâche en liberté, dans nos villes, pour aider à vivre, à aimer, à désaimer, à mourir. Et dans ces 5 ans d'études, beaucoup passés à des statistiques, de la physiologie, de l'anglais, de l'expérimentation, bien formés, oui, non. Non, pas formés à la rue, à la maladie ou à la souffrance psychique, pas formés aux autres. Et devant eux pour leur enseigner la clinique au sens général, pas de chercheurs payés pour chercher, des praticiens, des artisans. 5 ans, c'est peu de temps pour transmettre le savoir-faire, le tour de main dans l'humain. Foucault, toujours lui, décidément, écrivait en 57 ce qui vaut presque encore aujourd'hui. Tout le monde convient qu'un licencié en psychologie ne sait rien et ne peut rien faire, puisqu'il a préparé tous ses certificats dans le jardin en 2 après-midi d'été. Quelques détails peut-être ont changé, il doit falloir une bonne semaine. Pourtant, cette psychologie-là, celle qui est appelée à l'aide, nous en avons un besoin pressant. Et nul ne peut le nier, elle a de l'avenir. La pilule du bonheur, quelques noms barbares qu'on lui invente, n'est pas encore à nos chevets. Chacun de nous, chacun sans presque d'exception, à un moment ou l'autre, a besoin de prendre un bain de mots qui calme et humanise. Les pilules calment, mais elles n'humanisent pas. Il faudrait peut-être que la psychologie qui humanise ait droit de cité dans la recherche scientifique. Le travail ne manquerait pas, car de nombreuses questions théoriques traversent la clinique, dont les institutions officielles de recherche pourraient reconnaître la pertinence et l'urgence. Un exemple, mais de taille me semble-t-il, quand on relit ce qu'écrivaient les phénoménologues Merleau-Ponty ou Binswanger, surgit la question de la nature, de la compréhension que le clinicien doit avoir de la conduite de l'autre, pathologique ou non. Comprendre, est-ce que c'est découvrir le sens profond mais invisible, non objectivé, du comportement, comme Colomb a découvert l'Amérique? Ou bien comprendre, est-ce que c'est inventer le sens de la conduite, le conférer avec des mots? Le sens est-il déjà là, dans la conduite, au fond, caché? Ou la conduite attend-elle qu'on lui en donne un? Question redoutable, mais évidemment décisive pour une psychologie qui voudrait renaître de ses cendres. Il semble que des cliniciens, conscients que sur la crête de leur discipline vacille vers les sciences du cerveau, réagissent, cherchent à nouveau les fondements épistémologiques, philosophiques, si on veut, de leur pratique. Condition de la survie, reprendre son bâton d'épistémologue, repartir à la recherche des fondements. Autre question théorique liée à la précédente, évidemment. Quels sont les effets psychologiques de la naturalisation de cette pente sans fond où nous entraîne la science moderne, celle qui fascine? Le premier, le plus simple de ces effets, c'est que chacun de nous a fini par être persuadé que quelque part, à l'intérieur de lui, il y a un inconscient, une personnalité, une intelligence, des affects et des pulsions. C'est peut-être ce dernier concept que nos étudiants aiment particulièrement mettre à toutes les sauces qui va le mieux illustrer mon propos. Après une lecture même distraite d'un freudisme quelquefois de bazar mais bien médiatisé, nos étudiants sont persuadés qu'au-dedans de leur corps, il y a des pulsions qui évidemment les poussent. À quoi ? Eh bien, à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et d'ailleurs, autre responsabilité éthique de cette psychologie, ça les pousse à faire ce qu'ils ont bien le droit de faire, puisque c'est plus fort qu'eux. Entendez, plus fort que leur volonté ou leur conscience, parce que c'est naturel. Des pulsions, donc, comme des entités là, localisées dans une topique métapsychologique un peu vague. Des pulsions substantialisées des choses dedans. Or, les pulsions, comme les affects, les émotions, ne sont ni des états, ni des choses qu'on pourrait mesurer ou observer. L'étudiant aux prises avec le concept de pulsion oublie, mais en fait, on ne lui a jamais appris, que l'existence des pulsions ne peut être inférée qu'à partir d'une relation intersubjective, toujours intersubjective. Elle n'existe pas en elle-même, les pulsions. On ne saurait les situer au sein d'une intériorité isolée. Les pulsions, elles restent, sont la résultante d'un ensemble de données appartenant au vécu dans la relation avec les autres, avec l'autre. Sans autre, pas de pulsion, seulement de l'animalité. Chacun ne se réalise que par la présence d'autrui. C'est ça même la conception intentionnelle en psychologie qui restitue la dimension humaine, c'est-à-dire l'altérité, qui renonce à isoler l'individu pour comprendre qu'on n'est humain que dans les autres. Pour être plus précis, plus philosophique aussi, on peut formuler cette question de l'influence du bain d'humanité comme renvoyant à celle du bain d'esprit, au sens d'esprit du temps, de Zeitgeist, dans lequel on est. Il existe schématiquement deux grands groupes de conceptions de l'esprit. Certaines conceptions partent d'un esprit naturel, dont les règles de fonctionnement sont les structures mentales, matériellement présentes dans le cerveau. C'est la philosophie dont a parlé Pierre Jacob hier, qui préside à la psychologie cognitive et qui l'amène à sa dissolution dans l'imagerie cérébrale. Ces conceptions visent à expliquer. Et expliquer, c'est alors découvrir les structures biologiques, neurologiques ou génétiques qui déterminent, qui causent les conduites. L'esprit est dans le sujet, il est substantialisé, il existe dans la matière neuronale et il attend les scalpels et les caméras. Cette conception de l'esprit, que Pierre Lejean dirait bouchère, invite au festin les neurobiologistes après que les psychologues aient vaguement suggéré par où commencer la découpe. On comprend alors les risques qu'encourt la psychologie. À substantialiser les sources des conduites, les pulsions par exemple, elle invite les biologistes à prendre sa propre place à table. Dès lors, la schizophrénie, l'agoraphobie, la dépression, l'angoisse, tout ce qui nous mène au psy, peut recevoir une thérapeutique qui se passe fort bien d'eux et touche directement au cœur du sujet dans la viande. Des médicaments, des thérapies géniques, muettes, sans bain de mots, sans humanisation. Et s'ils se livrent, les médecins de l'âme ou de la psyché, que sont les cliniciens, devront renoncer inévitablement alors à exister. Mais pire des désastres, ils livreront aussi l'humanité dans l'homme au silence des bouchers. D'autres conceptions de l'esprit maintiennent ce qui semble aujourd'hui une dernière ligne maginot contre le déferlement de la vague naturalisante. Elles partent de l'esprit objectif, comme disait Hegel, c'est-à-dire de l'esprit impersonnel, général, fait de connaissances tacites et partagées par tous, par tous les membres d'une culture, consciemment ou non. Cet esprit-là est social. C'est un ordre de sens qui préexiste à toute intelligence individuelle. L'esprit est présent dans le monde, dans les pratiques symboliques, les institutions, dans les œuvres humaines. Et dans la tête des sujets, il n'y a que les conditions individuelles, biologiques, de la participation à ces pratiques et institutions. Dans ce cas, pour comprendre la conduite, pour l'humaniser, il faut aller chercher ce qui la détermine ou la prédétermine hors du sujet, dans l'esprit objectif, social, collectif, dans la relation aux autres, à l'autre, dans ce qui est objectivement là, dans le monde partagé. Ça, c'est la philosophie de l'esprit des phénoménologues, comme Searle ou Merleau-Ponty, pour qui l'esprit objectif est déjà présent partout quand un enfant vient dans un monde. Un esprit objectif habite les vestiges et les paysages, écrivait Merleau-Ponty. Ce n'est pas Mowgli ou Victor de l'Aveyron qui cherchent de la diffusion chez les psys. Les petits d'hommes baignent dans des mots, dans des institutions, des rites, des gestes déposés là, avant eux, par des hommes, dans le passé, par des œuvres, au sens de production générale de l'esprit, au sens d'Ignace Meyerson, des œuvres qui constituent l'esprit objectif. Celui-là préexiste donc à l'esprit individuel et le modèle pendant que les enfants grandissent. Toutes ces significations désormais silencieuses, comme disait Foucault, sont lentement, inconsciemment aussi incorporées par l'être humain. L'individu intègre dans son corps, dans ses conduites, ses comportements, son cerveau, ses pensées, tout ce que comporte l'esprit objectif, mais sans qu'il faille qu'il en soit conscient. D'où ce que Bourdieu appelle la complicité ontologique entre les structures mentales individuelles et cet esprit objectif. Dans ce cadre, l'esprit objectif est une totalité déjà là, pleine de signification, incorporée lentement. Cet esprit-là recèle le sens de la vie et de l'action humaine. Il y a donc nécessairement une cohérence entre l'esprit objectif, l'ensemble de la culture donnée, et l'esprit subjectif qui l'incorpore. Cette coïncidence permet de considérer que la question que nous nous posions, découvre-t-on le sens de la conduite qui est incorporée dans le sujet, ou confère-t-on un sens à la conduite à partir de ce qui est dans le monde, n'est pas en fait une question décisive. S'il y a cohérence, le sens des conduites est à la fois à l'intérieur du sujet, grâce à l'incorporation, et dans le monde extérieur au sujet qui lui préexiste. C'est probablement pourquoi les psychothérapies guérissent. Le thérapeute trouve dans le monde commun les sources de son interprétation de la souffrance vécue, la délivre, les délivre au sujet qui retrouve son propre monde. Et les rites qui entourent ces échanges jouent leur rôle, ils calment parce qu'ils humanisent. L'influence du thérapeute vient de l'antériorité de l'esprit objectif sur l'esprit subjectif. La vie en société repose sur des significations que tous les membres doivent reconnaître et partager, thérapeute et malade inclus. Des significations communes dont les institutions sont garantes et porteuses, des significations extérieures aux individus à l'origine et qui ont donc autorité et validité sur lui. Dans notre société, c'est dans le cadre des psychothérapies qu'opère cette humanisation de la souffrance par le monde commun. C'est ainsi, mais comment est-ce ailleurs ? Chez de nombreux peuples traditionnels, ce que nous appelons souffrance psychique est rapporté à une cause tout à fait externe à celui qui souffre. À des rabs chez les Lébous de Dakar, par exemple, à des djinns ailleurs, à des êtres invisibles non humains, des forces qui agissent et sur lesquelles le thérapeute doit agir. Pour cela, il recourt à des rites relativement stables, connus de toute la communauté, qui ne sauraient mettre leur efficacité en doute, à des rites et à des paroles, à des chants. Toutes ces pratiques qui soignent, humanisent, mais ne s'adressent pas à l'intériorité, à une psyché. Il ne s'agit nullement d'une pratique psychologique, et pourtant, la thérapie a les mêmes effets, les symptômes disparaissent. Encore une belle question pour une psychologie qui serait pleine d'avenir. Pourquoi guérit-on ainsi? Que fait le thérapeute? Il écoute la plainte. Il l'attribue sans douter à l'action de forces extérieures et transcendantes qu'il identifie grâce au savoir qu'il a acquis de sa pratique, dans son peuple, dans sa tribu. Et puis il mène un rite destiné à rétablir l'équilibre des forces. Le rite, bien connu et fixe, comporte nombre de gestes et de paroles, magiques si l'on veut, mais pas vraiment plus magiques que les nôtres. Des gestes et des paroles parfaitement cohérents avec le système de compréhension de la souffrance, qui lui découvre un sens en même temps qu'il lui en donne un. Si le malade a perdu l'appétit et n'arrive pas à dormir tellement il rêve, c'est à cause des rabes, des forces qui veulent quelque chose qu'il faut découvrir, qui est le sens du trouble. Et le thérapeute guérit en satisfaisant ces forces non humaines et en donnant à la souffrance un sens qui est directement en relation avec ce monde commun. Dans ce monde enchanté, où fonctionne la magie ou la religion, les conduites viennent des enchanteurs, pas de l'intérieur de soi. Dans ces sociétés, comme dans la nôtre, le thérapeute soigne en humanisant, mais en recourant à un monde commun vide de toute psyché. Il peut y puiser à la condition d'en connaître les arcanes, le langage, le passé, les exigences, vaste savoir, longuement transmis, savoir de tradition. On comprendra qu'un peu partout dans le monde, les rites de soulagement de la souffrance à vivre, chez nous de la souffrance psychique, ne devraient pas être menacés de disparition. La mort clinique serait en effet une bien mauvaise nouvelle. Et cependant, la menace est là, perceptible, mais diffuse. Ce qui menace en fait cette psychologie des praticiens, des docteurs de malheur de vivre, d'aimer, de mourir, ce n'est pas le manque de malades. Ce sont surtout les défaillances de leurs convictions. Tant que la psychanalyse freudienne, de loin ou non, inspirait leur thérapie, leur compréhension, aucune sirène naturaliste à queue courte ne les charmait. Mais le temps de la jeunesse freudienne a passé. D'une part, évidemment, les psys sont aujourd'hui confrontés, là, dehors, dans la rue, peut-être même là, à l'intérieur, à des formes nouvelles d'appel à l'aide, à des souffrances étrangères aux livres qu'ils ont lus. Mais d'autre part, ils hébergent dans leur propre rang des nouveaux venus, des rapides, des qui proposent des solutions en 5 séances, pas chères. On éradique sans bavardage le symptôme qui vous gêne et on vous attend pour le prochain. C'est la solution que proposent les thérapies comportementales qui n'ont de thérapie que le nom et de clinique que le pseudo. Fini les années à comprendre le sens d'une agoraphobie ou d'une conversion hystérique, il suffit de quelques séances de remodelage du comportement, comme chez les rats, pour qu'on vous débarrasse de ce léger inconvénient. Et puis, la menace médicale n'a jamais tant pesé, elle aussi. La clinique psychologique semble livrée à des réducteurs de têtes et de mots qui proposent de remplacer les palabres par des molécules muettes, certes, mais qui éteignent dans l'excellence le psychisme, en première intention, comme ils disent, leur premier mouvement, donc. Devant la plainte d'un agoraphobique, par exemple, c'est l'antidépresseur, ça calme. Ça ne guérit pas, ça ne fait pas de vous le plus excentrique de la Gay Pride, mais ça calme. Au moins, pendant un temps, la plainte se tait. Pas besoin d'un psy, alors, qui viendrait peut-être dire au médecin que la souffrance psychique n'est pas une chose, pas leur chose. Un psy qui viendrait subtiliser la maladie, en faire une fausse maladie, une maladie sans lésion, sans substrat pathologique. La menace médicale n'a pas desserré son étreinte sur la psychologie clinique, ni surtout sur nos souffrances intérieures. Alors qu'est-ce donc qu'il nous prépare? Si la science de l'humain en vient à se dissoudre, à se fondre, à disparaître dans la nature, n'y aura-t-il pas un prix, un coût humain à sa disparition? Comment sauver la science de l'humain pour sauver l'humain dans l'homme? À quelles conditions survivre comme humain? Vers quoi se tourner pour renaître, se reprendre, réassurer les fondements, l'humanité? Retourner à l'origine de ce qui, à partir de l'animal, a déjà fait de nous de l'humain dans le passé? Les fables naturalistes, puis les récits évolutionnistes dont on nous a imbibés pendant le dernier siècle, semble bien au contraire nous avoir convaincus de notre irréductible animalité. Nous avons avec eux, comme charmés par les récits de notre enfance, été détournés de l'essence du passage à l'humain, parce que ces contes étaient biologiques et naturalisants. Alors, où se tourner pour mieux savoir notre humanité? Peut-être vers les mythes de fondation, les mythes de l'origine de l'humanité, ceux qui racontent l'entrée dans l'humain, comme disait Ignace Meyerson en 51, qui pourrait nous éclairer sur les moyens de ne pas en sortir de l'humain. Prenons la théogonie d'Hésiode, ou les mythes africains, ou ceux des chamans de Sibérie, tous mythes paradisiaques, qui racontent un temps d'avant la chute, d'avant la séparation du ciel et de la terre. On se souvient que chez Hésiode, cette séparation, orchestrée par la terre, Gaïa, lasse d'être perpétuellement couverte par Uranos, séparation opérée par Cronos, le temps, en tranchant le sexe d'Uranos, cette séparation laisse libre un espace entre ciel et terre que les dieux et plus tard les hommes vont pouvoir habiter. Chez les chamans, même scénario, avant un événement tragique qui a rendu les hommes mortels, le ciel et la terre étaient unis par un arbre. Cet arbre cosmique était au centre du monde. Et les hommes et les animaux circulaient de la terre au ciel, qui n'était pas plus haut qu'une maison. Mais cet in illo tempore a pris fin. Le monde d'en bas s'est séparé de celui du haut. Et seul le chaman, par son vol magique, monte au ciel, abolit l'espace. Les autres, nous, les humains de base, restent dans l'espace, laissés béants entre ciel et terre. Tous ces mythes nous apprennent qu'être humain, c'est vivre dans cet écart entre la terre, la nature, le matériel, et le ciel, le très haut, le ciel inaccessible et puissant, le séparé, le symbolique. Après le temps paradisiaque d'unité du ciel et de la terre, après la séparation brutale, l'humanité a acquis sa condition. Fini la béatitude, fini la liberté, oubliez la langue adamique, celle des animaux. Désormais, sous la loi du temps et de l'histoire, les hommes sont condamnés à l'ici-bas et à la nostalgie, tous condamnés à souffrir. Mais le ciel, pour autant, n'a pas disparu. Entendons, condamnés à vivre désormais sur terre, les hommes devront faire avec deux mondes. Deux mondes séparés, l'un matériel, naturel, si l'on veut, et l'autre symbolique et transcendant, avec les choses, comme les animaux, et avec les mots ou les idées, comme les dieux. Être humain, c'est justement cela, c'est habiter cet espace au milieu, entre les mots et les choses, le symbolique et le réel, avec, pendant des siècles, sinon des millénaires, la conviction que le monde d'en haut, très haut, mène la danse d'en bas, que l'invisible gouverne le visible, y envoie ses signes qu'il faut déchiffrer éperdument. Dans chaque société humaine, et singulièrement dans la société occidentale, cette séparation et le lien entre les deux mondes ont toujours été institués, garantis par une instance d'ordre surtout religieux, l'Église en particulier. Cette instance a rempli dans les sociétés humaines une fonction. Elle dit ce qu'il faut tenir pour vrai. Le gendre dirait qu'elle a une fonction mythologique. Cette instance maintient les deux mondes séparés. Dieu n'est pas accessible aux chrétiens. Elle assure la séparation. Elle assure que le sens n'est pas la chose. Les hommes ne peuvent pas retrouver le temps paradisiaque du monde unique. Et les enfants, sous peine de sombrer dans la psychose, ne peuvent regagner ce dont les pères, les lois, les institutions doivent les séparer sans espoir, le ventre de Gaïa, la mère. Alors, l'aspiration fusionnelle les tourmente, jour après jour, à leur insu souvent. La séparation que chaque homme supporte sa vie durant, c'est la chute et puis la perte, irrémédiable. Les anges doivent être déchus pour goûter le monde. Ils doivent tomber littéralement sur terre. Et c'est une joie, mais c'est une souffrance aussi. Les mythes ont-ils pour autant déserté notre monde, comme si nous n'avions plus besoin de ces contes de vieilles femmes, comme disait Socrate ? Aujourd'hui, nous ne manquons pas de vérité, ni de discours sempiternels pour l'énoncer. Une instance est convoquée par la République pour nous la dire, ici même peut-être. C'est la science majuscule qui tient aujourd'hui cette fonction mythologique. Nous croyons tous durs comme fer. Moi, je le crois. Non, moi je le sais, que nos rêves ne sont rien d'autre qu'un emballement anarchique de neurones gorgés tous les 90 minutes d'acétylcholine. Nous savons qu'un enfant qui doit changer son mode de raisonnement pour accomplir une tâche, ce n'est rien d'autre qu'un cerveau qui opère par inhibition, par une bascule cérébrale de la partie postérieure à la partie antérieure. La vérité nous inonde et de partout nous plonge dans un bain aseptisé de transparence. Elle montre l'intérieur des têtes et des ventres. Et jusqu'à la scène primitive de l'accouplement qu'elle nous donne à voir sous la forme aplatie de la fusion de gamètes dans une éprouvette. À trop dévoiler, à trop faire voir, le charme des rêves s'est dissous. L'imaginaire des enfants s'est envolé avec l'oiseau lyre de Prévert et l'érotisme a déserté nos lits. Mais la science est un mythe bien particulier. Alors que les autres nous contaient la séparation fondatrice et nous y condamnaient, la science a recollé le ciel à la terre. Comme disait Nietzsche, elle a trouvé l'éponge pour effacer l'horizon. Elle annule l'espace et la séparation dans laquelle nous vivions humains. Elle réduit notre psyché à un cortex, notre souffrance intérieure à un abus de neurotransmetteurs. Et en nous délivrant du mal, elle nous fait tomber le ciel sur la tête. Alors de partout, évidemment, la nouvelle circule et s'ébruite, nous sommes en train de sortir de l'humanité, nous allons vers la post-humanité et il faudrait sauver les sciences humaines. Comment finir sur une note optimiste ? Par une blague peut-être ? De celle qui circule sur le net, qui n'a pas fini de nous faire rire, on lisait récemment dans un journal américain que la vente d'âmes est désormais interdite sur le site eBay. Lorsqu'on en mit une aux enchères, pour la très modique somme de 140 francs, la direction a informé le commerçant que la vente de ce genre de produit était proscrite parce que rien ne prouve que le vendeur est une âme. Et rien ne prouve qu'il soit en état de la livrer. Et puis surtout, parce que la législation américaine interdit la vente d'organes et que si l'âme existe, elle en est un. Évidemment, il n'y a pas de quoi rire. Alors sérieusement, saurons-nous, nos enfants sauront-ils être des post-humains, des humains sans ciel, sans symbolique, en surplomb ? Sommes-nous même capables de penser ce que serait une post-humanité ? Il faut espérer, mais c'est douloureux, que cette naturalisation, cette réduction du monde, ce dévoilement frénétique de nos mystères les plus doux vont produire tant de souffrances psychiques que l'humain dans l'homme résistera, faute de pouvoir céder. En première ligne de cette agression contre le symbolique, nos enfants, la jeunesse. C'est sur eux seulement qu'il nous faut compter, sur leurs difficultés à devenir lentement des humains, sur leurs perturbations psychiques. C'est donc vers eux que je préfère me tourner s'il faut espérer des conditions de survie. Et pour finir, c'est précisément vers mes étudiants de psychologie que je veux me tourner, vers leurs inlassables questions, vers leur inquiétude pour l'humain, à laquelle je dois presque tout, presque, parce que le reste, eh bien, c'est justement la dette fondamentale des humains. Le reste, c'est les parents.
Nous allons passer aux questions.
Bonjour, merci Bonjour. Beaucoup, c'était vraiment passionnant. Il y a un point de détail, enfin c'est pas du tout un point de détail, il y a quelque chose que j'ai pas vraiment compris, c'est de savoir si vous dites qu'il n'y a pas de base neurologique à l'activité mentale, ou si vous dites qu'elle existe mais qu'il ne faut pas la chercher. Et je précise ma question par une deuxième qui est, S'agit-il pas tout simplement de deux méthodes de recherche complètement différentes qui, au lieu de s'opposer, pourraient se compléter et se renforcer ?
Dans un monde paradisiaque, elles pourraient se compléter et se renforcer. Mais nous ne sommes pas dans un monde paradisiaque. De fait, bien entendu, personne ne peut nier, mais malheureusement, c'est une banalité. Qu'il y a des structures neurologiques qui supportent un tas de choses. Ça, oui, c'est sûr. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on tente à remplacer le discours des sciences humaines par le discours des sciences naturelles. Il n'y aurait pas de mal à tenir un discours naturaliste sur l'homme si ce discours naturaliste était bordé toujours d'un discours, disons humaniste, un discours de sciences humaines, mais c'est de moins en moins le cas. Je ne dénonce personne, j'énonce une inquiétude.
Une question là.
Oui.
Bonjour.
Moi j'ai été frappé, d'abord parce que dans tout ce que vous avez dit, et les applaudissements le prouvent, il y a beaucoup de vrai. Alors ceci dit, je vais vous dire ce que moi, qui me fait tiquer un peu, disons. On peut, et ce n'est pas la première fois, on peut grossièrement opposer, et de façon plus ou moins polémique, la science d'un côté, et d'autre part, la religion, ou les rites, ou les mythes. Bon, moi je regrette quand, disons, pour les douleurs banales en tout cas, je préfère la découverte des sciences, des sciences, c'est-à-dire la découverte d'analgésiques, surtout que bien souvent on ne connaît pas l'origine, plutôt qu'une tape dans le dos ou un réconfort moral, ce qui n'empêche pas d'utiliser les deux. Mais je veux dire par là, chacun a sa place. Et je déplore, moi la seule chose que je déplore, c'est qu'il y ait une polémique entre les gens qui sont partisans, disons, de la science, et les gens qui sont partisans de la religion ou des mythes ou d'autres choses. Alors, je vais vous poser une question très précise. Est-ce que vous ne pensez pas que le domaine de la science, justement, ne peut pas être total pour la simple raison qu'il y a effectivement complexité des phénomènes chez l'homme, en particulier chez l'animal aussi d'ailleurs, mais enfin chez l'homme puisque c'est ce qui vous préoccupe le plus. Donc il y a une complexité extraordinaire chez l'homme et il y a le phénomène du changement. Il est variable, donc tout ça, la science est gênée pour le traiter, ça c'est clair. Et d'autre part, quand vous dites, alors il y a un point quand même que j'aimerais soulever aussi, c'est le suivant. Vous dites que l'humain nécessite l'autre. Moi, je ne crois pas. Je crois que sur une île déserte, je pourrais souffrir, je pourrais m'angoisser, je pourrais faire un tas de choses plaisantes et un tas de choses déplaisantes. Et enfin, je crois qu'il y a quand même, pour aborder, pour recevoir les agressions de la vie, eh bien, il y a une part biologique qui me paraît assez indiscutable.
À moi aussi. Mais moi, j'ai la conviction que si je naissais clone sur une île déserte, Ça me libérerait peut-être un peu de l'angoisse. D'abord, je ne parlerai pas. Donc, je ne doublerai pas le monde réel avec du symbolique. Je mangerai. Je dormirai. Alors, peut-être je rêverai. Je me demande bien de quoi. Quant aux médicaments, vous parlez à une migraineuse, alors j'aime bien aussi les médicaments. Mais quand même, bien sûr que pour les mots banals, comme vous dites, on aime bien les médicaments. Ben oui, mais on aime bien aussi être réconforté. Et puis la souffrance psychique n'est pas forcément un mal banal, ni médicamentable. Alors évidemment, on peut avoir l'impression qu'on la supprime avec un médicament. On la fait taire. Mais elle a peut-être des choses à dire. Donc, encore une fois, bien sûr, il faut admettre l'existence des deux approches. Eh bien, il faudrait venir le dire à ceux qui disent que la science, que la psychologie aura un avenir dans l'imagerie cérébrale. Ou à d'autres, enfin.
Une question sur le côté.
Oui, on m'entend. Oui, c'est ça. Alors, madame, vous avez terminé trois phrases avant la fin en disant, sur une note optimiste, une blague, bon, pourquoi donc, et vous dites après, vos étudiants, tout ça, les difficultés vous ont formé. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas, au contraire, dire qu'on peut prendre une attitude toujours optimiste ? N'est-ce pas ? Moi, je parle de mon cas, je suis un miraculé de la médecine, j'ai été 15 opérations, je ne sais pas combien, enfin, de maladies. Tout cela s'est passé. Alors donc, je serai, avec les progrès de la médecine, je serai... complètement optimiste et je suis décidé à rester optimiste jusqu'à la fin.
Merci.
Que répondez-vous avec cette façon d'optimiste de voir la vie ?
Mais moi, je suis très optimiste. Mais bien sûr qu'il faut être optimiste. Mais on peut être aussi lucide. Et on peut s'inquiéter quelquefois. Et on a des enfants. Se demander quel monde on est en train de leur préparer. Alors oui, on peut être optimiste. Mais on peut veiller.
Oui, alors moi, je rejoins un petit peu les deux questions qui étaient avant. Déjà, vous parlez de la science comme un mythe. Moi, je pense que c'est une réalité qui va peut-être un peu loin des fois. Mais c'est une question de personnel. Après, vous dites que chacun se réalise par les autres, mais je rejoins la question d'une autre personne. On peut aussi se détruire par les autres. Vous avez le cas du harcèlement moral dans une entreprise où les gens se détruisent et s'auto-détruisent. Donc, je pense que c'est pas anodin, puisqu'aujourd'hui, ça va être quand même reconnu comme accident du travail. Donc là, il y a quand même un rôle de la psychologie. Non, mais riez pas, c'est vrai, paraît-il.
Ah, je sais que c'est vrai. Ça peut me faire rire quand même.
Et la dernière question, je suis plutôt dans le cursus de la psychologie du travail, donc ça me touche peut-être un peu plus. Mais j'ai pas très bien compris. Alors c'est moi qui ai peut-être pas très bien compris. J'ai eu l'impression que vous mélangez psychologie avec à la fois ésotérisme, magie, religion, mythe. Enfin là, je reconnais, j'ai peut-être pas dû comprendre, mais c'est vrai que je me place pas du tout par rapport à ça, quoi. Donc je veux bien que. Merci.
Bon, je vais essayer de vous répondre en vous parlant de la fonction mythologique de la science. Quand je dis que la science est un mythe, je le dis à titre de provocation, bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle tient dans notre société la fonction que tenaient auparavant certains autres discours, des discours qui étaient censés dire la vérité, que tout le monde devait tenir pour la vérité. Aujourd'hui, nous tenons tous la science pour ce qui dit la vérité, et d'ailleurs, elle l'a dit. Mais n'empêche que c'est une façon de dire la vérité qui a une particularité par rapport aux autres mythes. Cette façon de dire la vérité, ça n'engage que moi, je l'ai dit dès le début d'ailleurs, j'y vois une tentation de nous débarrasser lentement du contenu symbolique de nos comportements. Comme je travaille sur le rêve depuis longtemps, je peux vous dire que nous sommes dans le cadre d'une société qui finit par dire que le rêve est effectivement un emballement anarchique de neurones tous les 90 minutes gorgés d'acétylcholine. Voilà le dernier cri de ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le rêve. Alors, je ne conteste pas, c'est vrai que les neurones sont gorgés tous les 90 minutes d'acétylcholine. Et c'est vrai que c'est pendant ce temps-là qu'on rêve. Mais je pense que le discours de la science est un discours qui dit le vrai, mais qui a une particularité, ce que j'ai appelé nous aplatir, nous faire tomber le ciel sur la tête, ne plus nous laisser d'espace. Et justement, ne plus nous laisser d'espace pour vivre avec les autres. Alors oui, il y a le harcèlement, oui, mais il n'y a pas que ça quand même. Mais oui, bien sûr, les autres, ça ne nous fait pas que du bien. Mais quel mal ça nous ferait de nous en passer ? Quel mal ça nous ferait en tant qu'humains de nous passer des autres ? Si vous faites de la psychologie du travail, c'est pas seulement pour faire travailler des machines. Bon, sans les humains, vous ne seriez pas psychologue du travail. Bon. Donc il faut de l'humain. Dans notre monde, il faut de l'humain. Voilà. Alors quant à confondre, je ne sais pas ce que vous m'avez dit, la religion... Non, ce que j'ai dit, c'est que la psychologie des psys, la pratique clinique, ce que j'ai pu dire, c'est qu'elle obéissait à des rites, elle s'entourait de rites, et que ce sont ces rites qui ont une influence. Je ne suis pas allée plus loin.
Une question, là.
Oui, bonjour, madame, et bravo, je suis là. Bravo pour votre exposé. Là. Bravo pour votre exposé, aussi bien sur la forme que sur le fond. Dans cet exposé, vous avez à un moment donné parlé de certains rites dans des pays prétendument sous-développés, où la religion est encore forte et puissante. Dans ces pays, des comportements dits anormaux et qui, a priori, relèvent de la maladie mentale, ces comportements ont été guéris grâce à des rites ou des chants religieux dans un endroit bien précis. Et qui aurait ainsi chassé les djinns, des rites, et autrement dit le diable, de leur corps. Ces guérisons ont été constatées sans l'intervention du médecin, du psychiatre ou du psychologue. Certains malades ont même retrouvé l'équilibre psychique en se prosternant, par exemple, je l'ai vu en Kabylie, devant un olivier réputé saint, habité par des saints, d'autres en sacrifiant simplement un poulet. La science dit que... La science dit que c'est du charlatanisme. Mais le résultat positif est là. J'aimerais avoir votre opinion sur ces phénomènes.
Je ne pense pas que la science ait à se prononcer sur ces phénomènes. Ma conviction personnelle, c'est que pourvu qu'on croit à des rites, ils sont efficaces. Vous savez, quand on travaille sur le rêve, on constate une chose, les rêves, les contenus des rêves varient beaucoup. D'un endroit à un autre, du monde et d'une époque à l'autre, et le contenu des rêves et la façon de rêver, la forme et le récit des rêves. Et on constate que toujours, ce à quoi on croit, on en rêve. Et ce dont on rêve, on y croit. Donc, bien sûr, les hommes vivent dans des milieux, grandissent dans des milieux qui les, disons pour dire, pour être simple, qui les marquent, qui les influencent. Alors, quand on voit ces rites... Pourquoi la science serait-elle convoquée pour dire qu'il s'agit de charlatanisme ? La vraie question, à mon avis, c'est qu'est-ce que la science a à faire là ? Ou alors, pourquoi la psychologie ne nous dit pas pourquoi ça marche ? Parce que je sache, les gens sur lesquels ça marche, ce sont des humains. La psychologie, elle s'occupe de l'humain. Comment ça se fait que ça marche de se prosterner devant cet arbre ? C'est plus intéressant que de savoir si c'est tel neurone ou tel groupe de, je sais pas quoi, de neurones ou de gènes qui détermine que ça marche ou que ça marche pas, tel neurotransmetteur ou pas tel neurotransmetteur. C'est pourquoi ça marche. Ça, c'est une question psychologique que les psychologues devraient prendre au sérieux, qu'ils prennent pas toujours au sérieux.
Une question là.
Bonjour madame, c'est moi.
C'est vous.
Bon, alors moi, je, bon, Vous m'avez beaucoup rassuré sur une chose. Non. Apparemment, vous pensez que la psychologie, elle n'est pas là pour soigner, elle est là pour guérir. Et ça, c'est formidable, je trouve que c'est très bien. Et la psychologie, elle trouve donc sa raison d'être dans le besoin de thérapeutes qui sont là pour guérir et pas pour soigner passivement. Vous ne pensez pas qu'en réalité, il y a l'idée de l'inexistence de l'existence de la soumission à la psychologie aux sciences naturelles, c'est une fausse idée, d'après moi, parce que la psychologie utilise les sciences naturelles pour guérir. Vous ne pensez pas que c'est plutôt ça ?
Bah, écoutez, je ne sais pas. Les sciences naturelles, elles nous ont appris que les antidépresseurs... que les antidépresseurs ont tel ou tel effet, effectivement, sur la production de sérotonine, par exemple, et donc diminuent la dépression. Bon, voilà ce que les sciences naturelles nous apprennent. Mais est-ce qu'elles donnent du sens au monde, les sciences naturelles ? Est-ce qu'elles donnent du sens au monde ? Or, que je sache, nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas que des molécules. Nous ne sommes pas des animaux, nous avons besoin de sens, nous sommes des humains, il serait temps quand même qu'on s'en rende compte. Bon, alors être humain, ça veut dire vivre dans un monde de mots, car ça, on n'y échappe pas. Je veux dire, tous les humains, depuis qu'ils sont humains, parlent, et parce qu'ils parlent, ils sont condamnés. C'est ça la chute. Parce qu'ils parlent, ils sont condamnés toujours à doubler le monde avec du symbolique. Et une fois que le symbolique est créé, il se prosterne devant. Nous sommes tous fétichistes. Les fétichistes fabriquent de briques et de brocs avec des cheveux, des poils, des bouts de bois, des feuilles, des machins, des poupées, comme les menuisiers fabriquent des Christs dans les églises. Et dès qu'il est accroché, on s'agenouille. C'est donc que le symbolique a du pouvoir. Sinon, les fétiches n'auraient pas de pouvoir. Les arbres non plus, les Christs non plus. Or, le symbolique, comment pouvons-nous avoir cet espoir psychotique que nous allons nous en passer, que nous allons pouvoir coller avec ? Il va bien falloir continuer à faire avec. Je ne pense pas que nous nous en passerons. Je pense que nous imposons à la jeunesse, nous maintenant, enfin vous ça va, mais moi, bon, maintenant on est vieux, bon... Nous imposons à la jeunesse une image de l'homme qu'elle ne va pas accepter parce que ça va la faire trop souffrir. J'espère ça. Et pourtant, j'ai des enfants. Vous aussi, bon, ça va alors. Voyez ce que je veux dire.
Une question, là.
Bonjour.
Ben oui, bonjour, mais là, oui.
Voilà. Considérez ceci. Il y a, dans une nanoseconde, il y a plus de nanosecondes dans une seconde que de secondes dans 30 ans. C'est pour comprendre la petitesse. C'est pour comprendre notre petitesse. Il y a des étoiles que vous regardez, mais à l'instant T, elles sont mortes. Donc, à l'inverse, nous sommes déjà morts et nous n'avons pas assez de temps pour le constater.
Pas moi.
Nous n'avons pas assez de temps, j'ai dit, pour le constater. Il n'y a pas de mythe, il y a de l'ignorance. Alors, ne pleurons pas sur une tombe. Après tout, dans un monde fini, il faut bien mourir, surtout si la psychologie est la science la plus vieille du monde. C'est de l'ordre de la nature. Il ne s'agit pas de donner un jugement de valeur, mais rappelez que la Deuxième Guerre mondiale ne manquait pas de psychologie à la bourse spéculative de la puissance humaine. Alors, voici ma question. Quand vous parlez d'autres personnes, en tant que conférencier ou conférencière, vous choisissez selon votre psychologie, alors vous me donnez une réponse, 2 fois 2 est égal à 4, 4 fois 2, c'est égal à...
Donc, c'est une colle.
Alors, 4 fois 4, 16. Donc, vous avez 16 possibilités, 16 réponses à me donner différentes.
C'est ça le
domaine de définition de demain, madame. Et il nous faut un ordinateur. Merci.
Merci. Une autre question, s'il vous plaît.
Je n'ai pas l'article.
Oui, madame, s'il vous plaît, dans le champ de l'humanisme que vous défendez, que pensez-vous des travaux d'Henri Laborie ?
Je ne les connais pas assez bien pour me prononcer ici sur cette question. Je ne connais pas assez bien les travaux d'Henri Laborie. Je parle de ce que je connais bien.
Juste deux dernières, une là.
Bonjour madame, bonjour. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensiez du fait que la psychanalyse, et surtout la psychanalyse clinique, n'ait pas sa place parmi les savoirs de l'an 2000, en particulier sur le thème « Comment nous soignerons-nous » et les sciences humaines, supposé que ce soit une science.
Et toc. Gabriel, vous voulez répondre ? Yves est quelque part.
Il y a encore un mois à programmer.
Un mois pour la psychanalyse
Non, peut-être
Gabriel,
une
conférence. Gabriel, il y a Excel. Bon.
Une dernière question.
Moi, je voudrais avoir votre opinion sur la relation, enfin cet aplatissement que vous dénoncez. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié votre discours. Cet aplatissement, est-ce que vous pensez qu'il a une grande influence sur l'économique, justement, et sur la partie économique de la vie ? Oui, c'est ça. Enfin, cette façon de traiter les êtres comme si c'était des choses dans l'économique. Est-ce que vous pensez que les sciences ont leur responsabilité ?
Elle s'en fout, elle a sa paye à la fin du mois.
Comment ça ? Mais qu'est-ce que j'entends ? Elle s'en fout, elle a sa paye à la fin du mois. Mais c'est un gag. D'abord, je m'en fous pas, mais c'est vrai que j'ai ma paye à la fin du mois. Mais je sais pas. Elle aussi a sa paye, bon ça va. Je ne sais pas madame, je pense qu'il, je ne veux pas prendre ça comme une plaisanterie du tout. C'est une question importante, non ce n'est pas une plaisanterie, mais ma réponse ne devrait pas l'être non plus. C'est une question importante, mais là le lien est plus difficile à faire, parce que nous passons du domaine de l'application des sciences biologiques à l'individu à l'impact du discours biologique sur des activités interindividuelles et des activités de groupe, des activités sociales comme l'économie. Donc, je suis bien convaincue que le discours scientifique a un impact important sur notre façon de nous représenter le monde, de nous représenter les rapports entre nous, les rapports humains, les marchandises aussi, le réel, les choses. Et donc, j'ai bien envie évidemment de vous répondre, bien sûr qu'il y a un impact. Mais le mesurer, l'énoncer, le clarifier serait l'objet de tout un travail qui n'est pas celui d'une historienne de la psychologie. Ceci dit, je pense bien entendu, encore une fois, l'économie étant une activité humaine, que le discours biologique ne peut qu'avoir un impact sur les représentations qui sont sous-jacentes à l'économie.
Françoise Parot, je vous remercie.
C'est moi, Gabrielle.